soir, le programme, le gouvernement Judith Souminois a enfin investi ce mercredi au petit matin, composé de 54 membres. Ce gouvernement est investi 6 mois après le début du deuxième mandat de Félix Tshisekedi et 2 mois après la nomination de Judith Souminois comme première ministre. Les députés nationaux ont adopté le programme d'action du gouvernement qui est investi, et ce dernier, après 8 heures de débat général et la réplique de la première ministre, le débat avait débuté mardi à 17h et s'était étendu jusque dans les minutes qui ont suivi minuit. Après la réplique de la première ministre Judith Souminois, 397 députés sur 405 présents ont donc voté pour l'investiture du gouvernement et 8 autres se sont abstenus. Le programme d'action du gouvernement est chiffré à 92 milliards de dollars et s'étend sur les 5 prochaines années. Selon la première ministre, ce programme est structuré en 6 piliers et 52 axes prioritaires. Les 6 piliers sont notamment la création d'emplois, le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais, la pacification du pays, la construction d'une économie plus diversifiée et plus compétitive. Ce soir, Dialogue entre Congolais revient avec les experts de la société civile sur cette actualité pour notamment analyser le programme d'action du gouvernement souminois et son pronostic de réussite. Et pour le faire, nous recevons Fred Bauma, directeur exécutif Ebouteli Institut Congolais sur la politique et la gouvernance. Fred Bauma, bonsoir. Il y a aussi Dominique Kambala qui est prévu pour être membre dans cette composition. Il est membre de la société civile du Conseil du Kassai Central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Également directeur général de l'ONG dénommée Société Congolaise pour l'État de droit. Dominique Kambala, est-ce que vous êtes là? Comme je l'ai dit, Dominique Kambala va sans doute nous rejoindre en cours de ces échanges. Et enfin, pour clôturer la composition de ce soir, Marion Gavo Kamba, président de la société civile de Goma dans la province du Nord Kivu. Marion Gavo, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Le gouvernement Judith Souminois a enfin investi ce mercredi au petit matin, composé de 54 membres. Ce gouvernement est investi 6 mois après le début du deuxième mandat de Félix Tshisekedi et 2 mois après la nomination de Judith Souminois comme première ministre. Les députés nationaux ont adopté le programme d'action de ce gouvernement et l'ont investi ce dernier après 8 heures de débat général, la réplique de la première ministre. Le débat avait débuté mardi à 17h et s'était étendu après minuit. Après donc la réplique de la première ministre Judith Souminois, 397 députés sur 405 présents ont investi et voté ce gouvernement et 8 autres se sont abstenus. Les détails de ces événements avec Michel Kifinda.
Prenant la parole en premier, le député Paul Chilumbu de l'UDPS exige que la première ministre veille à ne pas construire des ouvrages à usage unique, comme c'est le cas actuellement. Christian Mwando d'Ensemble pour la République s'oppose même à la composition de ce gouvernement.
Ce gouvernement est inutilement éléphantesque, battant en brèche toutes les promesses de réduction du train de vie de l'État, avec ses 50 membres nommés de manière cavalière, comme dans un partage inégal de butin.
Katissa Kombi du MLC soutient les actions prévues dont la mise en œuvre devrait prévenir toute discrimination.
Il n'est pas bon de procéder par exemple à la démolition des maisons des pauvres habitants en laissant les riches situés dans les mêmes zones. Cela entraîne la rupture d'égalité, l'injustice et la discrimination.
Claude Missaré de l'UNC insiste sur la nécessité de l'autosuffisance alimentaire.
C'est une honte pour un grand pays comme la RDC de dépendre de petits pays comme le Rwanda sur le plan alimentaire. Qui peut comprendre que la RDC, avec ses forêts, n'est pas à mesure de produire même les cure-dents?
Tous les autres députés plaident pour que la pacification du pays, la construction des routes et la relance de l'agriculture soient les priorités de ce gouvernement.
Fred Bauma, directeur exécutif des Bouteli, Institut Congolais sur la politique, la gouvernance et la violence. Tout à l'heure, hors micro, vous me disiez que vous avez suivi jusque très tard dans la nuit le déroulement de la cérémonie et l'événement d'hier, donc les péripéties de l'installation du gouvernement. Son programme a été présenté, il y a des chiffres, il y a des axes, il y a des piliers. Quels sont les premiers commentaires que vous faites et de l'investiture de ce gouvernement et du programme qui est présenté pour conduire, pour guider ce gouvernement?
Merci beaucoup. Peut-être d'entrée de jeu, je voudrais dire que les débats que j'ai suivis, comme beaucoup de Congolais, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine liberté d'expression au Parlement. Ça change un peu du précédent Parlement et j'espère qu'au courant de ce mandat, on verra un Parlement qui est réellement un espace de débat. Ça nous manquait un peu. Sur le programme du gouvernement lui-même, je note sur la forme qu'il y a un décalage entre la célérité dans la mise en place des institutions et les attentes de la population. Ça a quand même pris environ 143 jours entre les prestations de serment du président de la République pour avoir un gouvernement investi. Ça ne donne pas l'idée d'un gouvernement ou d'une classe politique qui comprend l'urgence de la population. On a quand même un pays qui fait face à la fois à la crise sécuritaire peut-être la plus grave depuis 20 ans. On a 7 millions de déplacés, on a une crise humanitaire, on a une crise alimentaire et on a des gros problèmes d'inégalité. J'espère que dans la mise en place de ce programme, on le fera en tenant compte de l'urgence. Maintenant, sur le programme lui-même, je trouve quand même qu'il a été élaboré en tenant compte des grandes priorités. Peut-être que je ne les aurais pas données dans le même ordre, mais ça prend en compte autant des questions sécuritaires que des besoins de création d'emplois, qu'il y a besoin de stabiliser la monnaie et de rendre à la RDC son image de marque. Je constate aussi que le budget est près de 92 milliards de dollars sur 5 ans est énorme si on arrive à le mobiliser, même si c'est les besoins réels de la RDC sont encore plus important. La composition du gouvernement sur beaucoup d'aspects laisse de l'espoir que s'il y a du sérieux, si on laisse au gouvernement l'occasion de travailler, on pourrait peut-être espérer. Donc je pars un peu sur un optimisme, mais un optimisme prudent tout de même, parce que ce ne sera pas la première fois qu'on a vu des beaux programmes du gouvernement qui n'ont pas été mis en œuvre. Une chose, peut-être là où je suis resté sur ma soif en lisant le programme du gouvernement, c'est la place de l'éducation. Il y a beaucoup d'aspects où on parle de l'agriculture, beaucoup d'agriculture, de création d'emplois, mais je constate que la ligne qui parle de l'éducation, c'est presque une ligne sur les 88 pages de ce programme-là. Et ça pose quand même une question, parce que j'ai l'impression que notre système éducatif n'est pas forcément adapté aux besoins de notre société et même aux ambitions que le gouvernement veut se donner. On crée plus d'économistes et de juristes que d'agronomes, même si le programme investit beaucoup sur l'agronomie. On veut faire entrer de progrès technologiques, mais où sont ces experts qu'on veut mettre dans le système? Donc je pense peut-être que le temps de le faire ne les a pas laissé l'occasion de pouvoir pousser plus loin, mais je pense qu'il y a un sérieux problème dans notre système d'éducation et c'est un des points les plus absents de ces programmes.
Alors Fred Bauma, est-ce que votre prudence
c'est juste de la politique, de la politesse de quelqu'un qui est bien élevé, bien éduqué, ou bien ça s'appuie sur des éléments palpables, parce que dans les premières réactions d'autres personnes ou d'autres catégories d'individus, que ce soit dans la classe politique ou au sein de la population, Radio Okapi a essayé de tâter ces terrains-là. Si on doit quand même faire la comparaison, il y a eu un peu plus des gens qui sont sceptiques, pessimistes, pas, certains sont prudents comme vous, mais il y a un peu plus de sceptiques, de pessimistes que d'optimistes ou même de neutres comme vous. Alors sur quels éléments vous fondez votre prudence? Est-ce que c'est l'équipe en qui vous faites un peu plus confiance? Est-ce que même s'il y a eu du retard à mettre des institutions en place, vous avez des éléments qui vous permettent de ne pas tout de suite jeter le bébé l'eau du bain?
Alors, j'ai pas l'habitude de mâcher mes mots, donc c'est, quand je dis une prudence, ce n'est pas par politesse. Je pense que le gouvernement doit être conscient qu'il intervient dans un environnement où la confiance entre la classe politique et la population est rompue. On est habitué à des postes de première pierre, on est habitué à de grandes promesses, on est habitué à peu d'actions. On est habitué aussi à voir le gouvernement s'accaparer de tous les avantages et laisser la classe ouvrière, la classe travailleuse abandonnée. Et donc, même s'il y a beaucoup de noms que je trouve intéressants et à des bonnes positions dans ce gouvernement, je pense quand même qu'il y a dans la pratique, par le passé, nos gouvernements ne se sont pas montrés particulièrement intéressés à améliorer la vie des gens. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que on a eu l'impression, au moins dans les gouvernements passés, dans les 2, 3, 4 gouvernements passés, qu'il y avait des centres d'action qui étaient à l'extérieur du gouvernement. Donc on avait des ministres de la Défense qui n'étaient pas vraiment des ministres de la Défense. On avait le ministre des Finances qui agissait sous les ordres d'autres centres. Et ça paralyse l'action du gouvernement. Ce n'est pas sûr qu'on ne va pas le voir dans ce gouvernement. Ce n'est pas sûr qu'on n'aura pas une première ministre qu'on ne voudrait pas qu'elle prenne trop de place parce qu'elle générait l'espace d'autres, et ça pourrait aussi bloquer. Et surtout, ce n'est pas certain que beaucoup de gens de ce gouvernement voudront renoncer à leurs avantages énormes pour laisser la plus grande part du gâteau aux Congolais moyens, aux Congolais normal. Et je pense que le gouvernement doit prouver, en fait, pour qu'on parte de cet optimisme prudent vers un vrai optimisme même, du pessimisme vers l'optimisme, il faut de preuves. Il faut que le gouvernement montre par de nombreux exemples qu'il va être différent.
Alors, le gouvernement parle d'à peu près 16 à 18 milliards de dollars de budget annuellement, et pour les 5 ans, ça tourne autour de 92 milliards. Le débat est presque éternel en RDC sur la capacité à mobiliser un budget réel, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quand ce gouvernement parle de 92 milliards ou de 18 milliards l'an, vous avez été prudent tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait atteindre ces sommes? Sinon, à peu près selon les bonnes pratiques ou selon les réalités, vous voyez ce gouvernement annuellement disposer de combien de budget à peu près, pouvoir mobiliser à peu près combien d'argent pour faire face à ce programme qui est assez important et urgent à peu près partout.
Je pense qu'il y a un paradoxe. Les 18 milliards de dollars par an, ça semble beaucoup et on n'arrive souvent pas à le mobiliser, mais c'est assez peu par rapport à ce que le Congo a besoin pour payer tout le monde décemment pour investir dans des secteurs productifs. Maintenant, je pense que le Congo a beaucoup de ressources, beaucoup plus de ressources pour mobiliser beaucoup plus que 18 milliards de dollars. Si le gouvernement met en place des systèmes fiscaux plus structurés, si le gouvernement met en place une administration qui fonctionne et s'il rationalise les dépenses publiques comme c'est dit dans son programme,
peut-être qu'on arriverait à mobiliser beaucoup plus. Et si on arrive à diversifier notre économie, parce que jusqu'à présent, nous dépendons à très grande partie que du secteur minier. Mais il y a plus que ça. Par le passé, on avait un potentiel, on avait une agriculture qui fonctionnait jusqu'à un certain degré, ça portait même notre économie pendant un certain moment. On peut encore le faire dans des cacao, le café et même d'autres types d'agriculture. Donc ce n'est pas le moyen qui manque. Je pense que c'est le besoin de l'argent facile, de l'argent rapide qui fait que finalement nous ne posons pas les bases d'un État qui fonctionne.
Merci Fred Bauma. Dominique Kambala, est-ce que vous êtes avec nous en ligne maintenant?
Je suis en ligne, vous m'entendez?
Oui, oui, merci de nous rejoindre. Dominique Kambala, membre de la société civile du Kassai Central et ancien bâtonnier du barreau de cette même province, également directeur général de l'ONG dénommée Société Congolaise pour l'État de droit. À chaud, quelle est votre réaction de l'investiture du nouveau gouvernement, du programme qui a été présenté, et qu'est-ce que vous pensez de ses intentions de bien faire pour ce gouvernement?
L'investiture du gouvernement, c'était un moment crucial et monumental pour la vie de toute une nation. Enfin, on y est. Le gouvernement a été investi. Le programme gouvernemental a été adopté. D'entrée de jeu, il me semble que ce programme est ambitieux. Il traduit la volonté politique de pouvoir transformer notre pays, améliorer les conditions de vie des populations qui se trouvent présentement dans une situation de précarité et de misère inqualifiable. Nous avons senti l'humilité et la bonne foi de Madame la Première Ministre. Mais entre la bonne foi, entre la volonté de bien faire, la concrétisation, je pense que dans ce pays, on est habitué à un écart. À un écart qui fait que, généralement, les actions qui sont déclinées se révèlent être des slogans de marketing politique. Alors, est-ce que Madame la Première Ministre aura des mains libres pour pouvoir s'assumer en tant que véritablement chef du gouvernement? Ça, c'est aussi un point d'interrogation.
Dominique Kambala, justement, ça aussi un des points de notre analyse et des différentes analyses qui se font depuis qu'elle est nommée première ministre. Lorsque vous voyez son parcours, qui est connu, hein, parcours professionnel, mais lorsque vous voyez ne fût-ce que ses prestations comme ancien membre du gouvernement, le dernier gouvernement avant le sien, et lorsque vous fouillez par vos propres enquêtes sa personne, en ne faisant pas de fixation sur elle, mais c'est quand même elle la chef du gouvernement. Est-ce que, sous vos interrogations sur elle d'être capable de mener le gouvernement, est-ce que vous pensez qu'elle le serait ou pas?
Oui, mais regardez, voudrait que le président de la République préside et que le Premier ministre gouverne. Mais la tendance concrète sur terrain est tout autre chose. Donc nous voyons une tendance du président de la République à vouloir et à la fois présider et à la fois gouverner. Est-ce que ça va véritablement laisser les mains libres à Madame la Première Ministre de pouvoir fonctionner et à pouvoir s'assumer concrètement pour que sa bonne foi soit concrétisée, soit matérialisée? Vous ne m'avez pas laissé le temps de pouvoir jeter un regard sur les actions et qui ont été identifiés et proposés.
Vous avez la parole. Vous avez la parole, donc allez-y.
Allô?
Vous avez la parole, donc allez-y, prenez-la.
Voilà, donc lorsque vous regardez par exemple l'axe stratégique qui vise la gouvernance macroéconomique et la lutte contre la corruption, vous analysez les quatre actions qui ont été proposées, vous sentez que on n'a pas mis d'accent sur le pilier relatif à la répression. On a mis beaucoup d'attention sur les piliers concernant la détection. Or, la répression en matière de lutte contre la corruption, qui est devenue systématique et endémique dans notre pays, voudrait que on mette beaucoup d'accent sur le volet répression. Et lorsque vous regardez encore dans ce volet qui concerne la lutte contre la corruption, vous ne voyez pas des actions en termes de réformes qui visent l'alignement du cadre légal de lutte contre la corruption sur les standards internationaux. Et aussi, vous ne voyez pas des actions en termes de réformes pour compléter l'arsenal, le dispositif de lutte contre la corruption actuel. Je prends également le volet qui concerne le renforcement de la cohésion pacifique de communautés comme gage de la paix. Les questions liées à la lutte contre l'impunité ont été un peu minimisées dans ce programme. Or, l'impunité consacre le règne du mensonge et de l'oubli. L'impunité est incompatible avec la paix. Nous ne voyons pas quelque part où on met l'accent où l'attention est focus sur la lutte contre l'impunité. Je regarde aussi les questions liées à la restauration de l'appareil judiciaire. Est-ce que ce n'est pas déjà entendu parce que tous les gouvernements qui se succèdent dans ce pays préconisent l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats, le renforcement du système de discipline des magistrats. Mais tout cela, lorsqu'on va en pratique, il n'y a jamais la concrétisation, de sorte que il faut éviter. Le peuple congolais attend beaucoup de la matérialisation de ce programme et qu'il ne faut pas que les actions qui sont déclinées puissent se révéler être des chapelets de bonnes intentions ou les slogans des marketing politiques.
Dominique Ambala, mais est-ce que vous ne pensez pas que, comme la répression peut-être et les vertus, c'est un domaine transversal à toute action gouvernementale, je pense même que ça concerne les 54 ministère du gouvernement, la répression. Est-ce qu'on ne pensait pas que, on ne l'a peut-être pas évoqué, mais que c'est impliqué dans toutes les actions du gouvernement, parce que entre création d'emplois, renforcement du pouvoir d'achat des Congolais, pacification du pays, construction d'une économie efficace, il n'y avait pas, s'il fallait citer six choses, il n'y avait plus de place du tout pour mettre la répression et que peut-être qu'elle est incluse. Vous ne pensez pas?
Mais si elle n'est pas incluse, mais les piliers concernant la détection, parce que dans le programme, il y a le volet qui concerne le renforcement de la Cour des comptes, il y a le volet qui concerne la CNRF, il y a le volet qui concerne l'IGF, mais ce sont des structures qui interviennent dans la chaîne de détection. Mais les actions, parce que dans la lutte contre la corruption, on peut parler de l'impulsion, on peut parler de la prévention, on peut parler de la... Mais le point de mire de la lutte contre la corruption, c'est la répression. Or, la répression est contenue dans le cadre légal. Lorsque vous scrutez le code pénal actuel, vous regardez le volet de la répression, il faut renforcer la répression pour qu'on donne un signal fort et que le ton soit donné une fois de plus. Nous estimons qu'on devait effectivement renseigner, marteler sur l'aspect répression. Même si on a énuméré les autres actions, les autres axes, mais nous estimons que parmi les quatre actions préconisées pour la lutte contre la répression, un accent devait être mis concernant la répression.
Merci à vous, Dominique Kambala. Marion Gaveau, président de la société civile de Goma dans la province du Nord Kivu, votre province, les Kivu de manière générale, mais arrêtons d'abord un moment sur la province du Nord Kivu qui est en proie à de nombreux défis, surtout sécuritaires. Lorsque le programme du gouvernement a tendance à mettre en avant la sécurité comme une de ses priorités, est-ce que ça vous rassure?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue en passant mes deux co-débatteurs, ainsi que toute la population congolaise, elle meurtrie par les guerres des envahisseurs et toutes les guerres politiques et économiques des Congolais en capitale et partout. Et nous avons suivi, nous tous, le programme. Un gouvernement pléthorique, 54 personnes, et qui présente un déséquilibre, je crois, à notre niveau national, en termes de représentativité des provinces, mais plus de positionnement politique. Mais nous allons faire avec. Nous serons toujours sur leur chemin lors de la mise en œuvre. Ce programme devrait tenir compte aussi de provinces les plus productives, les plus pauvres, les plus peuplées et les plus enclavées pour en fait créer un déséquilibre. Nous avons senti que le chef de l'État a bien compris que plus de 70% des ministres sortants n'ont pas été à niveau de booster le développement. Ce qui signifie d'ailleurs des changements significatifs intervenus dans ce nouveau gouvernement. Il faut parler du mandat passé. En 2022, le programme était de 64,72 milliards de dollars pour 5 ans, soit 12,94 milliards de dollars pour une année, et pour une population de 99,01 millions d'habitants. Ce programme ici, actuel, qui est de 92,9 milliards de dollars pour 5 ans, soit 18,6 milliards par an, et pour une population aujourd'hui estimée à 5 millions de personnes, nous pensons que ce programme reste inchangé. Donc le pays ne se développe pas. Le pays stagne. Je vais, avant de citer, aller sur la situation, le contexte actuel, au moins dans l'Est. Au Nord Kivu, il y a 3 ans, nous avons plus de 2,66 millions de déplacés internes, dont 51% sont des femmes. En Ituri, nous avons aujourd'hui autour de 1,8 million de déplacés internes, dont 700 000 dans le seul territoire de Djougou, et qui représente autour de 40%. Les populations sous le regard des autorités, tant nationales que provinciales, et quels que soient leurs essais de rétablir l'autorité de l'État et de relancer l'économie, ce peuple souffre jusqu'à ce jour de l'insécurité, la peur quotidienne au ventre et des déplacements massifs, sans ou avec moins d'insister qui ont abandonné le village. Des bombes qui tuent et qui percent les corps des civils. Des tueries de milliers de personnes civiles, même hier, dans la zone de Beni. La restriction de mouvement, la prise en étau entre les belligérants et la coupure des échanges économiques et des activités de survie. Les tracasseries militaires et policières liées à la surmilitarisation des villes. Nous n'allons pas oublier le délabrement des infrastructures routières et surtout des défaites agricoles. Nous nous disons ceci. Nous disons ceci. Le gouvernement, oui, le programme des 6 piliers et ses 32 actions. Mais avons-nous vraiment des recettes en interne pour sa mise en œuvre? Ou misant sur les dettes des banques ou des partenaires et sous quelles conditions de redevabilité? Est-ce que la RDC a-t-elle une politique d'autonomie économique? Quel est le PIB aujourd'hui en RDC? Il est stagnant. D'où où sommes-nous aujourd'hui avec les indicateurs de développement?
Alors,
le logement, la nourriture, la santé, la scolarité, les transports. Tous ces secteurs sont en panne.
Marion Gavo,
ce programme devrait agir pour changer la phase de la vie de population. Et nous disons aujourd'hui que le pays stagne. Le Congolais lambda.
Marion Gavo, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez?
Mais oui, je cite de dire. La population congolaise a besoin de sa protection. Dans tous les secteurs.
Marion Gavo, s'il vous plaît.
Les questions sociales et les revenus quotidiens évoluent.
Est-ce que vous pouvez permettre, s'il vous plaît, noter que cette émission est un échange, donc prêtez bien l'oreille pour qu'on puisse échanger, sinon on ne sait pas justement
vous donner la parole sur d'autres aspects. Est-ce que tout ça, c'est pour dire que vous ne croyez pas au programme de ce gouvernement et que pour vous, dans 5 ans, vraiment de bonne foi, vous ne voyez pas ce gouvernement réaliser de bonnes choses, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan d'éducation, sur le plan de la sécurité, comme c'est un des besoins de la province du Nord Kivu. Allô, Marion Gavo?
Nous avons assisté à des programmes copier-coller, mais malheureusement, la mise en œuvre fait toujours problème. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les secteurs qui devraient être prioritaires, c'est la sécurité, la fin de la guerre, et que les gens retournent dans leurs entités. C'est éradiquer la corruption, l'impunité.
Marion Gavo?
Nous demandons même
Marion Gavo.
Aux gens qui ont géré dans les mandats passés, oui.
Oui, oui, tendez vraiment l'oreille parce que la question, on a compris votre plaidoyer et la priorisation des choses selon vous. En fait, la question c'était, on est là aussi pour savoir si vous y croyez ou pas. Vous, en tant que membre de la société civile, malgré le plaidoyer et le tableau sombre que vous venez de présenter des bilans passés, vous n'y croyez pas. Pour vous, ce programme ne sera pas exécuté, on n'atteindra pas les objectifs, il n'y aura pas la volonté, c'est ça?
Nous avons dit que nous allons aller avec.
Merci.
Nous allons aller avec, mais tout en orientant, n'est-ce pas, les secteurs exécutifs du gouvernement.
Merci. Parce à vous, Marion.
On ne veut pas avoir de programme qui reste dans les tiroirs. On ne veut pas avoir de programmes qui ne sont pas réalisés. Et que nous pensons que beaucoup plus l'infrastructure et la sécurité et la question de laisser les mains libres aux ministres, de ne pas s'adonner au mot d'ordre, ça, ça peut faire à ce que le programme soit respecté.
Merci.
Et qu'un changement puisse se faire impacter sur le terrain.
Merci à vous, Marion Gavo. Nous restons avec vous dans ces débats. Nous ouvrons le standard à nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent sur nos nombreuses plateformes, tout comme en FM. Nous ouvrons donc, nous donnons la parole à ce public qui participe aussi à la réalisation de cette émission. Pour vous, Fred Bahouma, directeur exécutif des Boutelli, Institut Congolais sur la politique, la gouvernance et la violence, nous allons écouter ce commentaire qui nous vient de la Tchopo et ensuite vous allez réagir.
Peter Wenda depuis Isangi dans la province de la Tchopo. Ce programme du gouvernement Judith n'est rien d'autre qu'un chapelain de bonne intention, car la première ministre n'a fait que dire aux Congolais ce qu'ils veulent souvent attendre et non ce qui sera fait. Ainsi, nul n'ignore le problème de la RDC, n'est pas le programme du gouvernement, mais plutôt de la volonté politique.
Fred Bahouma, nous l'avons entendu tout à l'heure, l'intervenant de la société civile dans la province du Nord Kivu, Marion Gavo, être sceptique. Là aussi, cet auditeur de la Tchopo semble l'être, comme beaucoup d'autres commentaires que nous avons lus avant cette émission et même pendant le déroulement de cette émission. Est-ce que pour vous, ça reflète la réalité de ce que ne pourront pas réaliser nos dirigeants, ou bien c'est la fatigue de la population qui désormais est devenue sceptique à tout?
Mais je pense que c'est important que le gouvernement comprenne sur quelle base il parle. Nous avons connu depuis l'indépendance, je veux dire, de politiciens qui viennent, qui donnent des programmes qui sont très bien sur papier, et on voit que les niveaux de vie des politiciens changent substantiellement, et les niveaux de vie de la population, on a de plus en plus de pauvres, on a aujourd'hui plus les niveaux de vie de la population congolaise s'est dégradé beaucoup plus que ce qu'on était en 1970 et même avant. Donc, le programme en soi n'est pas une nouveauté. Le fait que le programme soit ambitieux ou un peu moins ambitieux n'est pas une nouveauté. On a déjà vu ça. Les défis pour le gouvernement, c'est de comprendre qu'il a un devoir de prouver que son programme n'est pas qu'un chapelet de bonnes intentions. Et les gens parlent, je pense, d'un point de vue des défis importants auxquels ils font face tous les jours. On a un taux très très élevé de chômage, et même ceux qui travaillent n'ont pas suffisamment d'argent pour couvrir leur fin de mois. Leur salaire est dégradé chaque jour. On a 7 millions de Congolais qui vivent dans des camps déplacés. On a des populations de chez moi, à Goma, à Sake, dans le Rutshuru, à Beni et les autres qui vivent, dorment, ne sachant pas s'ils vont se réveiller le lendemain matin. Il y a beaucoup de Congolais qui sont dans des besoins et qui veulent que ce gouvernement montre qu'il peut être différent. Maintenant, dans cette émission, on juge le programme, c'est-à-dire qu'on juge les promesses. Les promesses peuvent être belles, elles ne sont que des promesses de toute façon. Notre capacité d'apprécier le gouvernement dépendra de ce que le gouvernement, comment le gouvernement aligne son action et ses promesses. Si ce gouvernement, et il y a quand même des premiers pas aussi qui ne sont pas toujours le plus exemplaire. Le gouvernement nous a promis la réduction du train de vie des institutions par la réduction, par exemple, de la taille du gouvernement. Ça n'a pas beaucoup changé sur ce coup-là. Bon, c'est passé. Est-ce que le gouvernement réduira les traitements des personnes au sommet de l'État, que ce soit les ministres, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit des responsables au niveau des institutions parlementaires et autres, pour que les autres puissent trouver également leur part? Ce seraient des exemples, je pense, qui montreraient que ça va dans la bonne direction. Ça veut dire que le programme peut être très beau. Ils pouvaient aussi dire 500 milliards de dollars. Ça ne serait qu'un programme. Mais notre confiance au gouvernement dépendra de comment ce gouvernement montre qu'il est en mesure de lier la parole à l'acte. Et je voudrais dire peut-être un dernier mot sur des attentes par rapport à ce gouvernement. C'est qu'au-delà de toutes ces promesses, on a aussi besoin d'un espace politique qui soit ouvert, qui permet la critique. On le voit au Parlement, peut-être que ça change un peu, je ne sais pas jusqu'à quand, mais ça doit se voir aussi dans la population. On a l'impression que les intimidations ont repris, que les personnes de la société civile, des médias, que même des syndicats sont réprimés à chaque fois qu'ils essaient de demander. Si le gouvernement qui met le dialogue entre la population et les autorités comme un de ses principes veut vraiment être honnête, il doit ouvrir l'espace politique. Et il y a beaucoup de militants, je pense à Gloria Senga, je passe à Nyamuiso, mon ami qui est en prison à Goma, je pense à des acteurs politiques et des journalistes qui sont réprimés. On ne peut pas seulement parler des indicateurs économiques ou des questions sécuritaires, on doit parler de l'environnement social, politique, etc., dans lesquels on évolue, et le gouvernement a les devoirs de pouvoir améliorer cela.
Merci Fred Bauma. Dominique Tambala, membre de la société civile du Kasaï central et ancien bâtonnier du barreau de cette province, également directeur général de l'ONG dénommée Société Congolaise pour l'État de droit. Nous allons écouter votre réaction supplémentaire, mais après avoir entendu l'analyse de cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa, André.
C'est André Ilunga Ndaba depuis Kinshasa. Je félicite d'abord Madame Judith Souminwa et toute son équipe pour ce programme ambitieux qu'il vient de défendre. Mais il y a, à mon avis, une redondance rhétorique inutile. Elle pouvait nous exprimer son idée en exposant en peu de mots et en très peu de temps record. Et en 6 points comme elle l'a fait, et moi j'essaie de synthétiser de ma façon. Premièrement, c'est la sécurité. Pour la sécurité, il y a d'abord l'ordre à l'intérieur et la sécurité par rapport à ceux qui nous entourent. Deuxième point, la réforme de la santé. Si on réforme la santé, on passe directement au troisième point, c'est l'éducation. La réforme de l'éducation nationale à tous les niveaux. Le quatrième point, c'est le développement. Pour le développement, il faut prioritairement commencer par l'agriculture, ensuite la pêche et les élevages. Les minéraux peuvent venir bien après. Au quatrième point, c'est le développement. Le cinquième point, ce sont des routes. Et enfin, la protection et la gestion de l'environnement.
Dominique Kambala.
L'espace qu'on appelle l'espace Grand Kasaï.
Cet espace se trouve dans une période post-conflit, puisque comme vous le savez, entre 2016 et 2018, il y a eu un conflit armé. Parmi les causes de ce conflit figurent le manque d'emploi et la carence d'opportunités de développement économique. Nous vivons dans un espace où il n'y a pas de desserte en électricité, il n'y a pas d'eau, toutes les contrées sont enclavées. De sorte que vous voyez que les populations ont beaucoup à attendre de la réalisation, de la matérialisation de ce programme. De sorte que le leadership de Madame la Première Ministre figure parmi les impondérables majeurs pour la réalisation de ce programme. Comme je viens de le dire au premier tour de micro, ce n'est pas la bonne foi qui va faire manger les Congolais. Ce n'est pas la volonté politique. Les Congolais ont besoin de la matérialisation de tout ce qui a été dit et que l'on comprenne que les populations se trouvent dans une situation de précarité énorme et que les beaux discours, c'est ça un peu la faiblesse du Congolais. Nous avons des beaux discours, nous avons de bons textes, mais l'application pose d'énormes problèmes. Hier, vous avez suivi les honorables députés se déchaîner en termes de désenclavement avec la route Kananga-Kanambambouji, en termes de la desserte en électricité. Mais tout ça, il faut craindre que demain, on se retrouve devant un conflit armé parce que il n'y a pas d'opportunité sur le plan du développement économique.
Dominique Ambala, on comprend, vous êtes revenu sur les arguments que vous avez avancés un peu plus tôt. C'est bien de le faire, mais on essaie aussi de faire avancer le débat. Vous êtes sceptique, vous le dites, parce que sur base de mauvaises expériences précédentes, mais là, on a des éléments peut-être nouveaux. Par le fait que c'est un nouveau gouvernement avec un nombre de personnes qui ont déjà travaillé comme membres de gouvernement, mais aussi de nouvelles personnes qui viennent en n'ayant posé aucun mauvais geste contre la société congolaise de manière générale. Est-ce que, malgré votre déception des gouvernements passés, vous n'avez trouvé aucun élément à nuancer, peut-être pour le compte au moins des personnes que vous n'avez pas encore vues à l'œuvre et qui pourraient faire du bien au programme présenté?
Bon, le problème aussi, c'est peut-être indépendamment des personnes. Le problème se trouve au niveau de la construction du programme. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on prend les rémunérations, c'est-à-dire le gros du budget, en termes par exemple 18 milliards le mois, le gros du budget est aligné, orienté vers les rémunérations. Et ces rémunérations-là, c'est pour vivre les institutions. Donc, il y a une sorte d'oligarchie qui se crée, de sorte que dans le budget, les ressources qui sont affectées vers l'amélioration des conditions de vie des populations. De sorte qu'on aurait pu comprendre qu'il y a des signaux en termes de réduction du train de vie des institutions. Mais s'il n'y en a pas, ça posera des problèmes. Un autre exemple, nos provinces vivent une instabilité politique grandissante à cause des motions de censure, des motions de défiance. Tout ça parce que les recettes, les ressources qui devaient être rétrocédées au niveau des provinces ne viennent pas. Et que tout problème des députés en termes de questions urgentes, des questions, c'est sur le...
Dominique Ambala, nous avons bien entendu votre réaction. Nous allons pour Marion Gaveau, qui est président de la société civile de Goma, dans la province du Sud Kivu, recevoir ce dernier auditeur pour ce soir.
Posté Takima à Mambasa, province de l'Ituri. À notre avis, le programme du gouvernement présenté hier est voté aujourd'hui à 2h du matin par son Excellence Madame la Première Ministre Souminwa, est un programme ambitieux pour le dernier quinquennat du régime, d'autant plus qu'il reprend à son sein tous les grands défis auxquels le pays fait face, notamment la situation sécuritaire, socio-économique, les infrastructures de base, l'éducation, la santé, les services sociaux et l'innovation de l'administration publique, etc. certes, les ambitions sont bonnes, mais la concrétisation de ces projets pourrait être utopique au regard du fonctionnement du système politique dans lequel Madame la Première ministre va fonctionner, qui malheureusement est caractérisée par les anti-valeurs, notamment la corruption, le détournement des deniers publics, le clientélisme, le tribalisme, etc. Enfin, en tant que Congolais patriotes dignes, nous souhaitons au nouveau gouvernement que le meilleur, afin qu'il puisse engager des réformes courageuses pour sortir le pays de la situation catastrophique auquel il se retrouve actuellement.
Marion Gavo, votre commentaire?
Oui, merci beaucoup. Il a raison, c'est un programme ambitieux. Et la question, c'est la mobilisation des ressources en interne pour ne pas dépendre toujours de l'extérieur. Et est-ce qu'il y aura respect des passations de marché, toute cette procédure? Est-ce qu'il y a des verrous pour arrêter la corruption et l'impunité? Est-ce qu'il n'y a pas, il n'y aura pas de coup bas politique lors de la mise en œuvre? Et comme a dit le collègue, on a tendance à croire que les institutions au niveau de Kinshasa, ils tirent le tout et il n'y a pas même la rétrocession. Et comme ça, vous trouvez que tous les secteurs sont paralysés au niveau de province. Nous, nous pensons que le gouvernement actuel doit s'atteler sur la sécurité, la justice, et quand il va révolutionner l'économie, il va réduire les chômages. Et il faut qu'il y ait un dialogue franc, pour que les actions de grands projets puissent être vraiment bien faites et que nous puissions, au niveau, par exemple, de l'éducation, voir la recherche technologique. On ne fait rien sans recherche technologique. S'il y a la sécurité, il y a les infrastructures, sont des secteurs qui boostent les autres secteurs du développement.
Alors, vous avez donné ce pronostic dans les autres aspects, mais et ça sera votre dernier mot pour cette émission ce soir. Le gouvernement a aussi pour objectif de mettre fin à la sécurité dans tout le pays, mais surtout dans la province du Nord Kivu. Vous qui êtes là-bas et qui êtes aussi, comme tout le monde, préoccupé par les questions de sécurité dans cette province, quel conseil pourriez-vous donner à ce gouvernement qui a son programme pour pouvoir réaliser cet objectif de sécuriser surtout le Nord Kivu?
Nous l'avons toujours dit dans le grand programme rentrant des activités, nous voulons la fin de la guerre et le retour des déplacés dans leurs entités. Et il y a la grande question de l'assistance aux populations déplacées et l'ouverture des routes. Mais nous pensons aussi que l'état de siège a échoué et que nous voulons que ça soit levé et que les militaires s'occupent uniquement des opérations dans les zones de combat. Il y a une surmilitarisation dans la ville de Goma. Nous sommes coincés ici. Je pense que nous attendons de ce gouvernement, à part son programme ambitieux, la paix, la sécurité et tout le reste va suivre.
Marion Ngavo, vous êtes président de la société civile de Goma dans la province du Nord Kivu. Dominique Kambala, membre de la société civile du Kasaï central et ancien bâtonnier du barreau de cette province, également directeur général de l'ONG dénommée Société Congolaise pour l'État de droit. Le programme du gouvernement Soumino Eloi est là et donne ses priorités et les axes qui sont cités, la sécurisation, l'économie, mais aussi les autres aspects évoqués, l'amélioration de la vie des Congolais. Qu'est-ce que, selon vous, il faut que ce gouvernement fasse de manière concrète, puisque vous parliez des actions concrètes et pas seulement des promesses? Que doit faire le gouvernement souminois pour réaliser son programme et réaliser l'amélioration des conditions de vie des Congolais et surtout le problème de sécurité et d'infrastructure?
En termes de paix, à donner au gouvernement, il me semble que travailler sur base de l'approche cise sur les résultats me semble monumental et crucial pour pouvoir concrétiser, matérialiser le programme ambitieux. Le leadership, la posture de Madame la Première Ministre à piloter l'action gouvernementale est très indispensable pour la réussite de ce programme et faire en sorte qu'il y ait une distinction entre ce que les Congolais ont vécu et ce que les Congolais attendent, parce que vous verrez que dans tous les discours, les Congolais se comportent comme une personne qui a été mordue par les serpents, commence à craindre même le lézard.
Merci à vous, Dominique Kambala. Fred Bauma, vous êtes directeur exécutif des Bouteli, Institut Congolais sur la politique, la gouvernance et la violence. Un peu la même question, les uns sont sceptiques, les autres sont un peu réservés, c'est votre cas, d'autres sont optimistes, mais quelle que soit la situation, il est question de voir le programme du gouvernement tel qu'il est présenté, dans tous les points qui les concernent. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que on arrive pas aux mêmes conclusions à la fin de l'exercice, que c'était un échec, que c'était des promesses irréalisables et irréalisées? Qu'est-ce qu'il faut concrètement que le gouvernement Soumina puisse faire pour ne pas tomber dans ce piège?
Je dirais trois choses. La première chose, c'est de réaliser que la mission est de remettre le Congo sur le rail et non pas de continuer dans une trajectoire descendante dans laquelle on s'est enfermé depuis longtemps, et donc de rêver, c'est le deuxième point, d'avoir de l'ambition. Et souvent, on a l'ambition dans nos affirmations, dans nos programmes, mais dans l'action, on agit comme si on s'est contenté de n'être qu'un petit pays d'Afrique centrale, malgré notre taille. Je pense que le troisième point serait d'avoir l'intérêt commun au centre de leurs préoccupations. On ne voit pas ça souvent. À chaque mandat, on voit que les politiciens sont intéressés par acheter les derniers jeeps, par multiplier leur salaire par 5, et il y a presque personne qui parle pour l'enseignant, pour le médecin, pour l'ouvrier. Il n'y a presque personne qui parle pour l'agriculteur, et on voit que tous nos villages se vident pour que les gens se confinent dans des villes où il n'y a malheureusement pas de l'emploi. Si le gouvernement on part sur un pessimisme parce qu'on est habitué à des promesses qui ne sont pas réalisées, mais si le gouvernement veut changer cela, si le gouvernement veut rétablir sa confiance avec la population, il faudrait que le gouvernement pose des actions continues et non pas seulement des actions symboliques qui vont dans le sens de rétablir. On l'observe. Je suis sûr que beaucoup de gens de la société civile.
Pour être un peu plus concret, sur le plan sécuritaire, on connaît l'état des lieux de la RDC. Sur le plan économique, on connaît aussi l'état des lieux. Sur le plan de la justice, la même chose. Sur le plan économique, les ambitions d'agriculture et tout ça. Vous n'êtes pas spécialiste en tout ça, mais si vous pouviez donner un conseil, ne fût-ce qu'une ligne, une ligne parmi ces secteurs, ce serait de faire quoi exactement pour atteindre les objectifs du gouvernement, et notamment aussi l'objectif de mobiliser les fonds présentés, 92 milliards et peut-être un peu plus.
Sur le plan sécuritaire, on a dit qu'on va investir 18 milliards de dollars dans l'armée. Aujourd'hui, on investit près de 1,7 milliard de dollars chaque année, essentiellement dans des dépenses, et notre stratégie de défense ne semble pas être cohérente et ne semble pas donner de résultats. Je pense que l'ambition d'avoir une armée républicaine bien équipée et de ne pas dépendre de forces extérieures, de mercenaires ou de missions de paix régionale est un objectif que nous pouvons atteindre si le gouvernement rationalise la dépense dans l'armée, si le gouvernement se donne le moyen pour mettre fin à l'impunité. Je pense qu'un de mes co-débatteurs l'a dit très clairement, au sein des forces de sécurité. Et si le gouvernement rend notre service d'armée, nos secteurs de sécurité, un secteur attrayant. Aujourd'hui, les gens qui ont des options ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans l'armée. L'armée, c'est un peu comme là où on va quand on ne veut plus rien d'autre. Je ne voudrais pas revenir sur tous les autres points, mais je pense que l'autre point que je voudrais souligner, là où j'ai commencé, c'est l'éducation. Si nous voulons changer ce pays, nous devons le changer en adoptant un système. On doit changer quelque chose dans notre culture, en fait. Une culture qui nous a rendu très dociles, mais une culture qui nous empêche de rêver, qui nous empêche même de mettre en œuvre nos ambitions. Et notre secteur éducatif, c'est quelque chose qu'il faut repenser complètement. J'espère que la nouvelle ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, à qui j'ai beaucoup d'estime, pourrait se lancer dans ce programme. Je ne comprends pas pourquoi et on ne voit pas ça dans le programme du gouvernement. Et j'espère que notre système d'éducation supérieure et de secteur de recherche seront aussi redéfinis pour que nous ayons un pays qui a les moyens de ses ambitions. Sans cela, nous serons dépendants et nous pouvons faire beaucoup de beaux discours, mais ça ne nous amènera nulle part.
Merci à vous, Fred Bauma, tout comme à Dominique Kambala et Marion Gaveau, pour votre présence dans ce numéro de cette émission. Alain Goy, Jonathan Fouanani, Guimante, Clément Chimanga, Hervé Evoka m'ont aidé à produire cette émission. Donat Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.